sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Elle est le trait d'union entre le mont Ararat et Ispahan, entre une brochette de Khorovats et une autre de Djoudje Kebab. Finalement, Nahirina Apetian s'est installée au pays du Cocovin. En rêvant peut-être de Simnon, ce sera une des questions en sol majeur, on verra ça. En tout cas, cette Iranienne née à Téhéran de parents arméniens affiche un culot policier, et pas du tout policier, qui lui réussit plutôt pas mal. Car en signant « Qui a tué l'Ayatollah Kanouni » aux éditions Liana Levy, cette journaliste freelance fait coïncider actualité et fiction de façon troublante.
Narek Jamshid est là à un taxi collectif sur l'avenue Vali-Asr et prit place aux côtés d'une femme d'une quarantaine d'années qui lui lança un regard indifférent avant de rajuster le tissu évanescent jeté sur ses cheveux. Le taxi démarra et Narek se mit à détailler du coin de l'œil le rouge à lèvres vermeil de sa voisine et ses paupières de teinte ocre assorties à son voile. Elle avait ce profil étrangement droit et légèrement pincé des Iraniennes qui investissent des fortunes afin de réduire leur nez aux normes occidentales. Un long fourreau en lamé or dépassé de son imperméable islamique. Où allait-elle ?
Bonjour Nahirina Apetian.
Bonjour.
Merci de nous avoir lu cet extrait de votre roman « Qui a tué l'Ayatollah Kanouni ?». Alors j'ai choisi ce passage avec Narek comme personnage principal de ce polar, justement parce que c'est un peu beaucoup, je dirais, votre pendant féminin. Est-ce que je me trompe ?
Alors, c'est vrai que Narek, qui est le l'anti-héros de mon roman, est un personnage à qui j'ai donné beaucoup de mes souvenirs. Il est déchiré un peu entre la France et l'Iran, c'est son premier retour en Iran. Il se sent un peu décalé.
Il a une maman arménienne.
Oui, tout à fait. Il est j'ai vraiment, je lui ai donné mes souvenirs dans les taxis collectifs, l'émotion que j'ai pu ressentir la première fois que je suis rentrée en Iran après une longue absence. Voilà. Après, ce que j'ai aussi mis beaucoup de moi-même dans les autres personnages de mon roman, notamment. Il y a un très beau personnage qui est Leïla, qui est une féministe islamique qui est culturellement très très éloignée de moi, mais qui m'est tout aussi proche que Narek, même si on a moins de points communs autobiographiques.
On va la faire revivre sans doute tout à l'heure. Et puis donc votre Narek qui part en Iran pour y faire un reportage sur les élections de 2005, et vous aussi donc de façon littéraire et policière, vous retournez à Téhéran à la veille de l'élection présidentielle, au moment où Ahmadinejad n'est encore que le maire de la capitale et où on ne mise pas un toman sur sa tête.
C'est l'outsider des élections, clairement, en 2005. C'est une des spécificités de l'Iran. Hein, un de mes personnages se le dit à ce moment-là, il essaye de faire des pronostics sur les élections et il se dit, mais de toute manière, ça sert à rien de faire des pronostics. On a toujours des surprises en Iran. Personne n'avait prévu la révolution, personne n'avait prévu que le mollah réformateur Khatami en 97 serait élu, c'était aussi un outsider, et en 2005 bon, il se dit on aura de nouveau une surprise de la même façon en juin dernier quand on a vu imposer la réélection d'Ahmadinejad, personne ne s'attendait à un tel mouvement populaire de la part des Iraniens pour résister à cette fraude. Quoi. On a toujours une surprise en Iran.
Et vous êtes notre surprise aussi, parce que vous avez du nez pour inscrire vos fictions dans une actualité qui est encore toute chaude. Hein, ce week-end, l'Iran vous a rattrapé, si j'ose dire.
Oui. Alors, quand j'ai écrit mon roman, je m'attendais pas du tout à ce que peu de temps après il y ait un tel mouvement populaire à Téhéran. Et c'est vrai que quand je repense à mon roman, je me dis que tout y est finalement, la vague populaire. faire, cette espèce de chaudron avec des jeunes qui n'en peuvent plus de la loi islamique qui leur pèse au quotidien, les dissensions entre ayatollahs. C'est vrai que j'étais moi-même étonnée de tout ce que mon roman avait prévu.
Donc ça donne 266 pages d'enquête dans un Téhéran très très contrasté. On va essayer de l'évoquer. On va écouter un petit peu de musique, Naïrina Apétian, avec quelque chose de très mélancolique et de très très beau. Il n'y a pas d'amour heureux. La chanson de Brassens, qui est reprise par Kerenan.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le croit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin, qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux.
Mon bel amour, mon cher amour,
ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour.
Kerenan, escortée par le groupe Tanger, dans le programme de notre invitée Naïrina Apétian. Vous êtes donc une amoureuse du mélancolique.
C'est une très belle chanson, très triste. Je voulais peut-être déprimer un peu les auditeurs en début d'émission.
C'est sympa.
Non, mais on leur remontera le moral après.
Naïrina Apétian, donc, qui jongle plutôt pas mal d'ailleurs entre la France, l'Arménie et l'Iran pour trouver sa propre voix.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Alors, moi, vous l'avez bien expliqué, je suis une Arménienne d'Iran. Mes ancêtres étaient installés en Iran depuis très longtemps, du côté de ma mère. C'est des Arméniens de Tabriz. Donc, Tabriz se trouve dans l'Azerbaïdjan iranien. Donc, je pense que c'est un peuplement très ancien, puisque frontalier avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie, enfin, toute cette zone. Où il y avait beaucoup d'Arméniens. Du côté de mon père, c'est des Arméniens d'Ispahan qui ont une autre histoire. Donc, ils sont arrivés en Iran au XVIe siècle parce qu'ils ont été déportés dans le cadre des guerres entre l'Empire ottoman et l'Empire perse à l'époque.
C'est l'histoire de ce Shah Abbas, oui. Ce grand roi venu chercher les Arméniens Parce que c'était de bons artisans, c'est ça ?
Alors, c'est un mythe.
C'est une légende.
C'est une légende absolument avec laquelle j'ai vécu toute mon enfance. On me disait, voilà, ce merveilleux Shah Abbas est allé chercher les Arméniens en Turquie parce que c'était des artisans extraordinaires qui allaient participer à la prospérité de sa capitale Ispahan. Et puis ensuite, en étudiant l'histoire en France, j'ai appris que pas du tout. Ce peuplement était vraiment le fruit de déportations très violentes. Et c'est quelque chose qui a été occulté aussi bien par les Iraniens que par les Arméniens, peut-être, je sais pas, pour maintenir une cohabitation pacifique. Voilà.
Donc vous, de vos parents arméniens installés à Téhéran, vous gardez une image de clan très soudé avec la famille, quoi, tout autour.
Oui, j'avais une très grande famille élargie avec plein de cousins, de tantes. À Téhéran, on se voyait régulièrement et c'est vrai que c'est une des choses que j'ai perdues en venant en France et que puisque toute ma famille s'est dispersée de par le monde. Une partie de ma famille est allée aux États-Unis, d'autres sont allées à Londres, une autre partie est restée en Iran. En même temps, quelque part, c'est ce que je raconte un peu à travers le personnage de Narek, malgré la distance, le clan survit. La dernière fois que je suis allée aux États-Unis, j'ai rencontré des gens, des cousins et des oncles éloignés dont je me souvenais pas particulièrement, mais qui me disaient ah oui, mais en telle année tu es allée en Iran et là tu es allée à Ispahan.
La mémoire familiale. Et vos deux grand-mères, est-ce qu'on pourrait les évoquer ? Est-ce qu'elles ressemblaient à de magnifiques femmes indignes style Persépolis de Marjane Satrapi ?
Alors moi, le souvenir que j'ai de mes deux grand-mères, c'est que c'était des femmes beaucoup moins rigolotes que le personnage de la grand-mère dans Persépolis. C'était des femmes plutôt sévères. Je voyais souvent ma grand-mère maternelle, qui était une institutrice quand elle était jeune, qui a appris l'arménien à des générations d'enfants. Voilà, mais j'ai plutôt le souvenir d'une femme un peu sévère.
Bon, vous nous présentez vos parents ?
Alors, mes parents étaient des chercheurs à Téhéran, spécialistes de bactériologie, tous les deux. Mon père était beaucoup plus âgé que ma mère, il avait 20 ans de plus, ce qui explique aussi peut-être en partie que quand je suis venue en France, ma mère ait fait le choix d'immigrer très vite.
Vous brûlez les étapes.
Je brûle les
Qu'est-ce
étapes.
Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sont des opposants ou pas au régime du Shah ? Première question.
Pas du tout. C'était au contraire l'élite occidentalisée, assez proche du Shah, pas très engagée politiquement. Non.
Donc qu'est-ce qui se passe ? La révolution arrive. Vous naissez en 70 à Téhéran, oui. Nahirina Apetian, dans une famille, on l'a peut-être compris, qui appartient quand même à l'élite. Ça se traduit comment, d'ailleurs, cette appartenance à la classe privilégiée, pour vous, petite fille ?
On était très, très, très occidentalisés, ma mère venait très souvent en France, d'ailleurs, quasiment tous les étés, on venait à Paris.
Et vous allez à l'école comment ?
Je vois à quoi vous faites allusion. En fait, vous m'aviez demandé au téléphone quand on s'était parlé pour préparer l'émission.
Elle a du mal à avouer.
Quel était mon rapport à la religion. Et c'est vrai que je vous ai avoué que quand j'étais petite, j'avais un chauffeur, en fait. Un chauffeur personnalisé. Donc j'étais une petite fille. J'avais entre 5 et 7 ans. Et tous les jours, j'avais ce monsieur qui me conduisait à l'école. Voilà. Et
c'était pas n'importe quel chauffeur.
Il était marxiste. Et c'est en discutant avec lui que j'ai arrêté de croire en Dieu, parce qu'il me démontrait tout au long du chemin qui était assez long que la religion, c'était l'opium du peuple. Et c'était un Iranien, donc il était très poète. Alors je ne saurais plus retrouver les métaphores qu'il utilisait, mais je me souviens qu'à un moment, pour m'expliquer le matérialisme dialectique, il avait utilisé l'image d'une rose périssable et il avait réussi à m'endoctriner.
À endoctriner la petite princesse.
Voilà, et on comprend bien quand même pourquoi il y a eu une révolution en Iran, quoi. Dans une société où les petites filles ont des chauffeurs personnalisés, et encore, moi, j'appartenais pas du tout aux plus riches, quoi. On faisait partie de l'élite, mais quand je me souviens de ça, je me dis, mais oui, on comprend bien pourquoi il y a eu une révolution dans ce pays.
Elle arrive donc en 79. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vos parents ?
Alors, ma mère a décidé de partir. Décision dans laquelle mon père l'a pas suivi. Je pense qu'il était très attaché aussi à ses racines arméniennes. Et il pensait que les Arméniens qui quittaient l'Iran étaient condamnés à perdre leur culture, à s'acculturer, voilà. La particularité, c'est que...
Mais votre père, est-ce que de toute façon, il peut sortir du pays ?
Alors, ce qui s'est passé, et c'est un mystère un peu non résolu pour moi, c'est que à un moment le régime lui a interdit de sortir du pays et de venir nous voir. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. J'ai un peu mené mon enquête, d'ailleurs ça c'est l'objet d'un roman en cours d'écriture qui est pas du tout fini, mais j'ai posé des questions à ma famille. Tout le monde a une version un petit peu différente. Mon demi-frère qui est aux États-Unis, donc c'est le fils de mon père, m'a dit voilà, un jour il est passé à la télévision, c'était au début de la révolution, et la République islamique avait déjà été instaurée, et il a parlé de république, et il a refusé de prononcer le mot république islamique, et c'est à cause de cet acte courageux qu'après on l'a empêché de sortir du pays.
D'où votre vocation d'auteur de polar, si j'ose dire.
Peut-être.
Nayarina Petit, on a une petite voix assez étonnante sur le pick-up d'un sol majeur. C'est celle de l'Hadj Ndiaye, une sorte de barde, de philosophe du quotidien comme ça, qui chante autant en français, en anglais qu'en japonais ou wolofisé. J'aimerais bien qu'on fasse une petite recherche. Vous vouliez écouter une chanson qui s'appelle Bouilli.
Oui.
Pourquoi ?
Elle est très belle. Alors c'est une chanson très militante pour l'indépendance des pays du Sud par rapport au Nord. C'est un vieux fond tiers-mondiste que j'ai gardé. Voilà.
Lañu xoc ñun dundatuñu réew mi lañu xoc dañu tecc bor yi diñu tecc ba tay
Adjem Diagh dans le programme en sol majeur de Nairina Apetian, journaliste écrivain qui revient nous parler de l'Ayatollah Khomeini et des Talking Heads. J'en connais un qui va se retourner dans sa tombe. Tout ça dans 3 minutes.